Voici le billet philosophique de la pleine lune en scorpion. Je vous propose de sonder notre psyché à la lumière du tarot de Marseille et des lunaisons. Voici une respiration à la fois philosophique et spirituelle pour garder un œil lucide et aiguisé sur nos mouvements intérieurs. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pleine lune en scorpion du 24 avril. Donc ça tombe le jour de mon anniversaire, ce qui, quelque part, est chouette pour moi. Je trouve que c'est un beau cadeau, même si les pleines lunes, c'est toujours un moment d'introspection où on se confronte à soi-même, où on essaie vraiment d'avoir ce courage de regarder à l'intérieur de soi et de vraiment reconnaître ce qui se passe à l'intérieur. Et parfois, on trouve des choses qui ne font pas toujours plaisir, mais aussi, on trouve une certaine satisfaction d'être aligné avec soi. Donc, vous l'avez compris, on est dans une pleine lune qui se situe dans l'axe scorpion-taureau. La pleine lune est en scorpion et donc le soleil est en taureau. Cet axe scorpion-taureau, c'est peut-être l'axe qui représente le mieux ce que j'essaie de porter à travers Fleur de Cactus. C'est-à-dire d'explorer notre rapport à la mort, d'explorer notre rapport au deuil, d'explorer notre rapport à nos attachements qui sont source de souffrance, c'est-à-dire qu'on est tellement attaché à ce que l'on pourrait perdre que cela va nous provoquer certaines résistances. Cela va nous provoquer de la peur. Et donc pourquoi je vous dis ça ? Parce que on a d'un côté le taureau qui représente cet archétype de l'incarnation dans le matériel. À comprendre ici dans la matérialité, c'est-à-dire dans le corps, dans la jouissance du corps, et donc par extension de la jouissance de tous les sens. Et donc à travers le toucher, à travers la vue, donc c'est un signe très attaché à la beauté, au plaisir aussi, à ce qui peut le rendre vivant, à travers la bonne table, la bonne chair, à travers ses relations. Donc toutes ces notions en fait qui nous rendent vivants et qui nous font sentir vivants, qui nous font sentir profondément vivants dans notre chair à l'intérieur de nous, que ça soit mentalement ou physiquement. Parce que quand on est sensible à la beauté, par exemple, c'est vraiment une jouissance de tous les sens. Donc c'est être attaché quelque part quand on est dans une recherche de la beauté. Moi, c'est mon cas. Je peux être dans un certain inconfort quand je suis face à quelque chose que je ne trouve pas beau. Et c'est très challengeant pour moi de m'adapter à cette situation-là et de ne pas être dans une forme de résistance. Et donc, comme tout signe, quand on est né sous un signe astrologique particulier, on est toujours invité à regarder le signe opposé. Et c'est ce que nous propose chaque pleine lune. Là, en l'occurrence, signe opposé au taureau, c'est le scorpion. Et le scorpion, lui, nous met au défi d'être capable de se défaire de nos attachements, d'être capable d'accueillir ce qui doit être et de laisser mourir ce qui doit l'être, pour ensuite pouvoir renaître. Donc d'un côté, le taureau nous rappelle qu'il faut préserver ce que nous avons, l'honorer, en profiter, le célébrer, et plus que tout, le faire durer à tout prix, le plus longtemps possible, en jouir, alors que de l'autre côté, le scorpion nous rappelle que tout a une fin, tout est recommencement, et que c'est essentiel pour que la vie puisse advenir. Sinon, on reste dans une forme de stagnation. Or, la stagnation, c'est vraiment un état d'arrêt, finalement. Il n'y a pas d'autre étape possible. Et je pense à là tout de suite, j'ai l'image d'une eau croupie, et qui reste croupie, pourrie, imbuvable, si on ne change pas cette eau, eh bien, on se dessèche sur place. Ou du moins, on s'empoisonne. On est obligé de nettoyer cette eau. Donc peut-être de la changer, de jeter cette eau pour remplir le vase ou le contenant avec une nouvelle eau. Et pour ça, on est obligé de se débarrasser de l'eau qui stagnait. Bon, tout le monde peut le faire, changer l'eau d'un vase. Mais si j'applique ça dans mon quotidien, eh bien là, ça devient un peu plus dur. parce qu'on est face à des résistances qui nous empêchent de vraiment passer l'étape qui nous ferait faire l'impensable pour nous. C'est-à-dire de rompre avec quelqu'un, par exemple, que ce soit un ami, un amoureux, etc. De poser sa démission alors qu'on ne se sent pas du tout aligné avec le travail qu'on fait. De ressentir ce qu'on a envie de ressentir, que ce soit de la joie ou de l'amour, mais aussi de la colère. Non, les deux émotions, en fait, peuvent être difficiles à ressentir parce qu'on est obligé de lâcher prise. C'est une notion qu'on va aborder ensemble durant ce podcast. Le lâcher prise, c'est, je trouve que ce n'est pas du tout évident comme notion. C'est une notion qui a été traduite pour parler de certains textes de yoga. La notion de bairagya, qui veut dire le détachement, le lâcher prise. Je trouve que détachement, c'est peut-être un peu plus précis. Mais comme on va le voir, j'ai envie de vous proposer une autre posture pour pouvoir envisager le lâcher prise comme quelque chose peut-être de plus naturel, de plus fluide. Donc, on va démarrer. Cher tarot, qu'avons-nous à apprendre de cette pleine lune en scorpion ? Tintintin ! Alors, comme d'habitude, je vous propose de faire le choix entre trois numéros, le numéro 1, le numéro 2 et le numéro 3. Vous prenez une profonde inspiration et à l'expire, vous choisissez un chiffre. Vous avez encore quelques petites minutes, mais je pense que généralement, quand il y a un chiffre qui sort, on y va. Et on choisit et on accueille le message. Mais avant, j'ai une carte générale que j'aimerais vous proposer qui va nous donner le tempo sur la lecture des trois autres lames. Et là, en l'occurrence, on a le diable qui est une lame majeure, un peu incomprise parfois, qui fait peur parce que tout de suite, le diable, on a été éduqué dans cette philosophie judéo-chrétienne. Et donc, le diable, c'est forcément le mal incarné. Et le diable, dans le tarot de Marseille, n'est pas annonciateur de quelque chose de horrible, terrible, et qu'on va se faire attraper par le diable si on se tient mal et qu'on fait quelque chose de mal. En fait, le diable fait référence à nos attachements, à la part d'ombre qu'on n'ose pas exprimer de peur d'être jugé. Et pourquoi ? Tout simplement parce qu'on est attaché à notre ego. Notre ego qui nous dit de faire ceci, de faire cela en fonction des normes culturelles, en fonction de notre éthique qui nous est héritée de notre famille, de la bien-pensance et de la bien-séance de la société en général. Donc parfois, il y a des personnes dans notre entourage qui sont capables, elles, d'aller embrasser cette part d'ombre et donc d'aller suivre leurs rêves. Quand bien même la société leur dit de faire le contraire. Et on aura tendance à jalouser ces personnes, à jalouser ces personnes qui prennent de la place, à les envier parce qu'elles sont capables de dire ce qu'elles disent, elles sont capables de suivre la vie qu'elles souhaitent. Et donc cette part d'ombre qu'on porte à l'intérieur de nous, tout le monde a une part d'ombre, c'est un concept qui nous vient de Carl Jung, hein, mais ça j'en ai déjà parlé dans d'autres billets. Cette part d'ombre nous empêche d'être, de se déployer dans toute notre beauté, dans la beauté du diable. Le diable, en fait, c'est cet ange qui était magnifique au paradis et qui était tellement orgueilleux de sa beauté qu'il a été éjecté du paradis. Et donc, il a créé son propre enfer. Et on peut imaginer, alors je ne connais pas très bien l'histoire du diable, mais on l'imagine monstrueux. En fait, il s'est bouffi d'orgueil. Il était tellement beau au départ, création parfaite du divin. Et il est devenu hideux parce qu'il est devenu attaché à sa personne. Donc oui, ça c'est une forme d'attachement. C'est l'attachement à quoi ? L'attachement à notre ego. Et l'ego, c'est vraiment cette perception que l'on a de nous-mêmes qui fait de nous quelqu'un d'important, qui nous attache à nous-mêmes, à ce que l'on veut, à ce que l'on aime, à ce que l'on n'aime pas, à ce que l'on souhaite, à ce que l'on déteste. Bref, en fait, c'est cette entité en nous qui vit à l'intérieur de nous et qui se croit le centre, en fait, de notre microcosme. Donc, quand je parle comme ça, on pourrait croire que je suis schizophrène, mais j'invente rien ici. C'est une interprétation psychologique de l'ego qui constitue notre construction psychique. Et il y a un paradoxe ici, parce que notre ego qui veut, qui aime pas, en fait, au fond de lui, parfois, il n'aime pas des choses qu'il aime. Je pense que c'est pour ça aussi qu'on adule autant les stars. En fait, on les admire au fond parce que elles sont capables de faire des shows extraordinaires et de prendre toute la place sur la scène. Et pourtant, on ne va pas pouvoir s'empêcher de les critiquer dans leur manière d'aimer, de choisir les hommes ou les femmes avec qui ils ou elles sont. On va les critiquer dans leur manière de chanter, dans leur manière de bouger, d'être sexy, pas sexy, trop sexy, trop vulgaire. Et au fond, en fait, on aimerait être comme ces personnes. Donc je reviens à cette lame qui est très intéressante et extrêmement éclairante, je trouve, sur le fonctionnement de notre psyché, sur le fonctionnement de nos réactions émotionnelles, qui nous parle d'attachement. En fait, ici, le diable qui est placé sur un piédestal, au-dessus de deux petits personnages qui sont attachés par une corde ou une chaîne qui les prend au cou. Donc c'est quand même assez violent comme image parce qu'on a l'impression d'avoir un seigneur tout-puissant au-dessus de ses esclaves. Et en fait, on voit la personne qui attache et les personnes qui sont attachées. Et en fait, ça renvoie exactement à ces deux rôles qu'on joue de manière qui s'alterne en fait dans la vie. On passe du rôle de celui qui attache au rôle de celui qui est attaché et vice-versa. Quand on résiste à nos envies de voir grand, quand on résiste à l'amour, quand on résiste à la tristesse, quand on résiste à nos rêves, et quand on continue à critiquer l'autre qui les poursuit, on finit par attacher l'autre. On finit par attacher nos enfants, par attacher son partenaire de vie. Parce que on va commencer à fomenter à l'intérieur de nous du ressentiment, de l'amertume, de la frustration qui se doit d'être dirigée sur quelque chose, donc ça va être dirigé sur nous-mêmes, mais le plus souvent aussi sur notre entourage. Je suis sûre que vous avez déjà eu cette expérience où vous revenez du travail, un travail qui ne vous plaît pas, vous avez passé une journée mais pourrie qui s'accumule à toutes les autres que vous avez passées auparavant, et on finit par crier sur notre entourage. Et donc, combien de parents se fâchent sur leurs enfants qui n'y sont pour rien et qui vident toute leur frustration sur leurs gamins. Donc, quand on résiste à l'intérieur de nous, de ressentir vraiment ce qui se passe, de le reconnaître, de l'observer et de l'accueillir, quand on résiste, eh bien, on finit par attacher les personnes qui nous entourent. On finit par nourrir des relations toxiques. Donc c'est vraiment cette idée du bourreau et de la victime et qui alterne les rôles en permanence. Parce qu'en effet, ces enfants qui sont abusés émotionnellement par leurs parents, potentiellement peuvent aussi commencer à nourrir ces émotions de colère, ces émotions de frustration, sans savoir vraiment d'où ça vient. Je vous parle de résister à l'amour. Il y a plein de gens qui résistent à l'amour. Il y a plein de gens qui résistent au fait de ressentir une joie ou un orgasme ou de l'amour qui pourrait leur faire perdre le contrôle. Et souvent, c'est perdre le contrôle par rapport à l'autre personne. C'est perdre le contrôle sur les épanchements qui pourraient survenir. Perdre le contrôle sur les émotions que l'on pourrait ressentir pour cette personne. Et donc, se perdre soi-même, d'arrêter d'être le centre de notre petit microcosme. Il y a une notion qui m'a frappée quand j'ai étudié, exploré cette lame du diable. Parce que quand on parle du diable, on parle d'orgueil. Comme je vous disais, c'était un ange absolument magnifique qui s'est fait éjecté du paradis pour son orgueil, pour son attachement à sa personne, son admiration pour sa personne. Et donc, on parle d'orgueil. Or, l'orgueil, c'est un mot étymologiquement qui provient du mot fierté en latin. Et fierté, issue du latin feritas, signifie cruauté, dérivé de ferus qui signifie sauvage. Donc, vous voyez où je veux en venir. Cet attachement à notre, à tout ce que l'on pense juste pour nous. Mais alors, attention, on va en parler après parce qu'il y a quelque chose de juste et quelque chose de juste. Juste selon notre propre prisme qui est bourré d'injonctions culturelles, d'injonctions familiales, sociétales. Et il y a ce qui est juste, qui est profondément juste et proche de ce qui est juste à l'intérieur de nous, qui est totalement différent et qui nous délivre de nos attachements, justement. Et donc, quand on est attaché, quand on est bouffi d'orgueil, on finit par être cruel envers notre entourage. Donc, lâcher prise, c'est céder. Donc, lâcher prise est une invitation à céder à ces résistances à l'intérieur de nous, de laisser venir ce qui doit être. Si vous avez choisi le numéro 1, vous avez un petit combo de deux cartes. Alors, elles sont tombées ensemble, donc je les ai gardées ensemble. Le 3 de bâton et le 9 de denier. Dans le 9 de denier, on a cette accumulation des savoirs, de l'argent, du confort. On arrive à un moment de sa vie où il y a une forme de maturité qui nous permet de jouir de ce que l'on a acquis, de jouir de notre expérience. Et avec le 3 de bâton, ça signifie ici le passage à l'action. Or, quand on est dans une situation où on repose un peu sur nos acquis, on a du mal à passer à l'action. On se fige dans ses acquis, ce qui va appauvrir notre expérience de la vie, ce qui va appauvrir notre pratique si on a un métier qui est lié à la transmission. Ça va appauvrir notre expertise. Donc en fait, on peut appliquer ça à plein de dimensions professionnelles, à plein de dimensions émotionnelles. C'est-à-dire que quand on vit sur ses acquis avec une personne et que finalement on se complaît dans une relation avec quelqu'un et qu'on arrête en fait de s'intéresser à elle, à ses désirs, à ses envies, à ses peurs, à ce qui la traverse, et qu'on se dit ça fait des années que je suis avec cette personne, tout va bien et moi je suis bien, donc pourquoi je vais m'embêter à m'épancher sur elle. Vous voyez, on est encore dans une forme d'orgueil ici. Eh bien, le 3 de bâton nous invite à continuer à bouger, de continuer à nous challenger, de continuer à faire en sorte qu'on soit dans l'action spirituelle, dans le sens où on regarde à l'intérieur de nous, on reconnaît ce qui se joue en nous, pour pouvoir toujours être dans cette forme de renouveau, on update le logiciel en fait. C'est difficile, je trouve, de savoir à quel moment il est temps de partir d'une situation. À quel moment il est temps, je suis arrivée au bout de cette situation, quand est-ce que je sais que je suis arrivée au bout? Quand est-ce que je sais que j'ai fait le tour? Quand est-ce que je sais que c'est le moment de partir de cette relation? Et c'est difficile de capter ce moment-là. Je dis relation, mais ça peut être quand est-ce qu'il est temps de partir de ce travail, de ce job. Appliquez-le à n'importe quelle situation dans laquelle vous êtes qui vous est problématique aujourd'hui. De capter qu'on est arrivé à ces 9 mois de gestation. Vous voyez, c'est ce 9 de denier. On est arrivé à maturité. Et je crois que la seule façon, en tout cas une des seules façons, mais moi c'est la seule façon que j'entrevois ici, c'est cette histoire de lâcher prise qu'on n'arrive pas à comprendre. Et donc j'aimerais vous proposer une autre notion qui est celle du laisser venir. de laisser venir ce qui doit se révéler. Et pour ça, on est obligé de développer cet œil témoin. On est obligé de prendre du recul et de vraiment se regarder, s'observer. Et c'est pour ça que quand on va chez un psy, quand on s'intéresse à la spiritualité qui nous pousse vers l'introspection, en fait, on est sans cesse en train de faire un bilan. 9 de denier, numéro 9, ça parle de bilan. On fait le bilan sur notre vie, sur notre situation. De faire le bilan, ça va nous permettre de regarder ses acquis, de les mesurer, de regarder si ça résonne toujours en nous et de continuer, à travers l'action juste, de continuer à être dans une posture juste, d'être dans la justesse du cœur, dans la justesse de nos ressentis. Et concrètement, ça donnait à cet exercice du lâcher-prise, du laisser-venir, c'est se laisser submerger par ce qu'on ressent. Donc attention, quand on parle de lâcher-prise, c'est une notion qui s'intègre dans tout un corpus de valeurs aussi qui est très important. Je parle des valeurs yogiques. On parle de la non-violence, il y a l'étude de soi, il y a plein de valeurs qui sont associées à cette philosophie du yoga. Donc, parce que si on se laissait aller à tout, mais on tuerait le premier venu, on créerait beaucoup de dégâts au final. On se mettrait à se battre, à taper quelqu'un. Voilà, ça peut être extrêmement extrême, en fait, quand on laisse venir ce qui doit être. Donc, quand on s'adonne au lâcher-prise, c'est vraiment observer ce qui se passe à l'intérieur de nous et se laisser traverser par cette émotion. De la laisser naître à l'intérieur de nous et de voir ce qu'elle nous propose de faire, ce qu'elle nous propose comme passage à l'action. Alors, parfois, ce n'est pas très beau. Parfois, c'est très beau, mais on en a peur. Et donc, c'est faire des petits pas, en fait. Ce n'est pas forcément du jour au lendemain tout plaquer. C'est commencer à réajuster la situation en fonction de ce qui se révèle, de ce qu'on laisse venir à l'intérieur de soi. Et je trouve que ça a beaucoup plus de sens que lâcher prise, parce qu'on a ici un oxymore où on nous propose de lâcher quelque chose que l'on prend. Qu'on tient, comme si, imaginez que vous êtes en train de faire de l'escalade sur un mur d'escalade, si vous lâchez prise, vous vous cassez la gueule, et ça fait très très mal. On peut même se casser quelque chose, se casser un membre. Donc, lâcher prise, c'est pas ça, c'est pas non plus se laisser submerger au point de commettre l'irréparable, c'est de se laisser traverser, de regarder en développant cet œil témoin, de regarder où est-ce que cette émotion se ressentit à l'intérieur de nous, où est-ce que ça nous dirige, et de réajuster en fonction. C'est comme un gouvernail, en fait, qu'on a à l'intérieur de soi, et c'est d'arrêter d'avoir des résistances sur ce qui doit être, sur ce que l'on ressent au moment T. Pour les personnes qui ont tiré ce numéro 1, posez-vous la question. Qu'est-ce que mon cœur ressent profondément? Qu'est-ce que je ressens à l'intérieur de moi? Et vers quelle action cela me dirige? Les personnes qui ont fait le choix du numéro 2, vous avez le 8 de coupe. Le 8 de coupe nous parle de satisfaction complète, de plénitude. En yoga, on parle de santosh, le contentement. Je pourrais résumer cette lame avec cette citation de Saint Augustin que je trouve très belle. Le bonheur, c'est de continuer à désirer ce que l'on possède. Alors bien sûr, on pourrait la comprendre au pied de la lettre et de se dire, cette situation merdique que je vis, je l'accepte telle qu'elle est et je continue à la désirer. Bien sûr que non. Ici, c'est d'être dans une posture de gratitude avec ce que l'on a déjà, ce que l'on possède déjà. De reconnaître l'amour, la beauté qu'il y a dans la vie de tous les jours, mais aussi dans celle que l'on s'est construite, dans l'entourage que l'on a, les amitiés que l'on a, la certaine relation familiale que l'on a. Et oui, parce que quand on regarde avec honnêteté notre façon de recevoir la vie que l'on a, de l'accueillir pleinement, on est toujours dans une insatisfaction perpétuelle qui nous fait nous ressentir inférieurs par rapport aux autres, ou pas assez, ou on n'est jamais satisfait de ce que l'on a atteint, même si on a atteint l'objectif qu'on s'était donné. C'est-à-dire que quand, je suis sûre que vous avez déjà eu cette situation, enfin en tout cas moi ça m'est déjà arrivé, j'ai réussi à atteindre l'objectif que je m'étais donné, mais je ne suis pas satisfaite. Parce que je me dis, un tel fait mieux. Une personne qui finit par avoir la maison de ses rêves avec un jardin et, je ne sais pas, avec une place de parking, eh bien non, ça ne va toujours pas parce qu'il n'y a pas l'arbre que ma meilleure amie a dans son jardin. Il y a toujours, en fait, quelque chose qui nous permet pas d'être dans le moment présent et d'être pleinement satisfait, satisfaite de ce que l'on a. Et je pense que voilà, c'est ça, c'est ce que je viens de dire, c'est qu'on n'est pas dans le moment présent. On est toujours en train de souhaiter quelque chose ou on est toujours dans le regret de quelque chose. On n'arrive pas à se placer dans cette posture de juste être là, ici et maintenant, et d'observer tout ce que l'on a. D'observer l'amour que l'on reçoit. De juste même observer la beauté d'une fleur. De se dire, waouh, c'est un magnifique cadeau en fait. Rien que ça, moi ça peut m'illuminer une journée. Après, bien sûr, je retourne à mes tracas et je continue à me prendre la tête. Mais si je regarde bien, cette fleur qui a éclos sous mes yeux m'a procuré un plaisir intense. C'était un beau moment. C'était un magnifique moment qui m'a rempli de couleurs, qui m'a rempli de senteurs. Donc, nourrir le contentement, c'est vraiment pas facile, mais c'est pourtant ce qui nous permet de nous ancrer davantage dans le moment présent et d'accueillir tout ce qui nous challenge comme une opportunité pour grandir, pour acquérir de nouvelles compétences. C'est-à-dire, même quand je parle de compétences, ce n'est pas forcément des compétences professionnelles, c'est vraiment des qualités d'âme. C'est être capable de faire preuve d'humilité, de se dire, non mais c'est bon, pour qui je me prends en fait ? J'ai un toit au-dessus de ma tête, j'ai un lit tout chaud, j'ai un lit tout douillet, j'ai une voiture qui me permet d'aller au travail, qui me permet d'aller explorer des routes encore inexplorées. J'ai un travail qui me permet de connaître de nouvelles personnes, même si elles sont différentes de moi, j'apprends de ces personnes. J'apprends moi aussi à négocier avec moi-même pour pouvoir être capable d'échanger avec cette personne, qui est pourtant à l'opposé de moi. Donc, ce contentement, cette satisfaction, elle est très très dure à cultiver dans notre vie quotidienne, mais pourtant elle est essentielle pour nous permettre de grandir, pour nous permettre de se remplir de beauté. Et cultiver le contentement, je pense que ça aussi, ça nous permet d'expérimenter ce lâcher-prise, d'expérimenter ce laisser-venir, de se contenter, de se satisfaire, apprendre à se satisfaire. Et même apprendre à se faire plaisir. Parfois, c'est là où se situe le problème. Donc, quand on a une résistance, quand on ressent une résistance à être satisfaite, c'est se demander, mais attends, mais quelles sont les causes de ça ? Qu'est-ce qui m'empêche de me satisfaire ? Est-ce que je considère que je ne mérite pas ça ? Est-ce que c'est moi qui n'y arrive pas parce que je suis bouffie d'orgueil, parce que j'ai trop de frustration en moi ? D'où vient cette frustration ? Est-elle de mon seul fait ? Ou provient-elle d'une autre personne ? Posez-vous donc la question, qu'est-ce qui me satisfait ? Qu'est-ce qui me donne de la satisfaction ? Et est-ce que je suis capable aujourd'hui de ressentir ce contentement ? Quand je m'assois sur mon canapé, quand je m'assois dans mon jardin, est-ce que j'arrive à ressentir la satisfaction ? Les personnes qui ont le numéro 3, vous avez le 6 de bâton. La suite de bâton fait référence au corps, à tout ce qui est matériel. Et donc, avec le 6 de bâton, qui nous parle de plaisir, d'extase, on est invité, alors c'est plutôt sympa comme message, à se faire plaisir, à apprendre à se faire plaisir, à se faire un cadeau, à se remercier, à s'occuper de soi. C'est considérer son corps comme un temple et donc à lui donner des bonnes choses. Donc, qu'est-ce qui nous procure du plaisir ? À travers la vue, le toucher, quel est le sens le plus sensible de tous ces sens ? Et comment je peux faire pour faire en sorte que cela me procure du plaisir et que je l'accepte ? Car en effet, pour certaines personnes, c'est pas évident d'accepter de se faire plaisir. Il y a des personnes qui sont tout le contraire de l'orgueil et qui font passer les autres au premier plan. Et c'est très dur de se faire passer au premier plan quand on a toujours eu cette habitude de se laisser de côté et de donner de la moindre importance en fait à ce que l'on est. Alors oui, on pourrait croire que ce sont des personnes qui sont sur le chemin de l'éveil et qui ont tout compris. Parce que quand cette posture n'est pas juste, elle peut provoquer des frustrations. Elle peut provoquer des maladies, c'est-à-dire liées à du stress perpétuel, parce qu'on s'inquiète toujours pour les autres, parce qu'on en fait trop. C'est un problème, parce que ça ne nous met pas du tout sur les rails pour nous permettre de vraiment... être en parfaite adhésion avec soi-même. Dans le yoga, on parle d'unité. Elle nous parle de cette adhésion complète avec notre être. Et souvent, on dit de ces personnes qu'elles n'ont pas d'ego. Ça ne veut absolument rien dire parce que sans ego, on ne pourrait pas construire la vie que l'on a. On ne pourrait pas prendre des décisions, on ne pourrait pas se nourrir de savoir, tiens, à tel moment, j'ai faim, donc je mange. C'est vraiment l'ego qui nous permet de passer à l'action et cela dans notre vie quotidienne. Donc l'ego est essentiel en fait pour pouvoir mener une vie à bien. Mais parfois cet ego est extrêmement contrôlant. Il déteste la subversion en fait. Et donc ces personnes qui se font passer au deuxième plan, c'est pas qu'elles n'ont pas d'ego, au contraire, elles sont très attachées à ces valeurs qui leur font croire qu'elles ne méritent pas de se faire du bien. Elles ne méritent pas de se faire plaisir. Et donc, ça n'a rien à voir avec une personne qui se dédierait corps et âme à sa communauté. Je pense par exemple à Mère Teresa, par exemple. Elle a dévoué sa vie aux autres. Et pourtant, elle avait un ego. J'imagine extrêmement fort et démesuré parce qu'elle a fait des choses incroyables, elle a déplacé des montagnes. Mais elle était en totale adhésion avec tout ce qu'elle faisait puisqu'elle a fait des choses incroyables et qu'elle a aidé des millions d'enfants. La différence est fondamentale entre une personne qui est en totale adhésion avec soi-même, peu importe les actions qu'elle fait, et une personne qui n'est pas en adhésion avec elle-même et qui va finir par somatiser dans le corps. Parce que là, dans cette suite de bâtons, on parle vraiment du corps. Donc, se faire plaisir à travers le corps, d'observer les changements dans son corps, de comprendre les maladies psychosomatiques dans le corps et de... Ici, on retient avec ce 6 de bâtons, c'est vraiment ce rapport au plaisir. Donc, posons-nous la question. Posez-vous la question si vous avez ce numéro 3. Comment vous faites-vous plaisir ? Êtes-vous capable de ressentir du plaisir ? Donnez-vous l'autorisation de le ressentir et d'observer ce qui se passe à l'intérieur de vous. Donc en somme, comme vous l'avez constaté, ces trois lames nous parlent de résistance au lâcher-prise. et de comment faire pour céder, comment faire pour laisser venir ce qu'il y a à l'intérieur de nous, en se connectant au corps, à ses ressentis, à ses envies, en se connectant à ses ressentis émotionnels, aux émotions qui surviennent à l'intérieur de nous, à reconnaître ce qui se joue à l'intérieur de nous. Donc, laisser venir, c'est lâcher prise. C'est arrêter de résister. Et donc de reconnaître où est-ce que notre ego est en résistance. Qu'est-ce qu'il ne veut pas lâcher ? À quoi est-il attaché ? Petite nouvelle à vous annoncer, il y aura désormais une newsletter une fois par mois qui reprendra les grandes lignes de ce billet philosophique, mais qui vous proposera aussi un petit aperçu des coulisses de Fleurs de Cactus, des références de livres, un focus sur une plante, sûrement ça viendra cet été, les rencontres que j'ai pu faire grâce au podcast. Donc voilà, c'est vraiment les coulisses de Fleurs de Cactus. Pour vous abonner, je vous mets le lien en barre d'inscription ou sinon directement sur mon site susannadarcambel.com. Je vous souhaite une très belle journée, très belle semaine. Prenez soin de vous et à très bientôt.